autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour nous interroger sur les états limites de conscience. Quelle est la différence entre le sommeil, le rêve, l'hypnose, l'anesthésie et le coma, la mort cérébrale ou les expériences de mort imminente? Comment mesurer la conscience chez un patient atteint de lésions cérébrales? Pourquoi est-il indispensable de repérer un état de conscience minimal? Quand peut-on parler de mort cérébrale? Autant de questions essentielles, vitales même, sur lesquelles travaille notre invité, Stephen Lorez, neurologue, clinicien-chercheur et directeur du Coma Science Group du CHU de Liège Université, qui nous fait partager ses découvertes sur l'état de conscience et le fonctionnement de notre cerveau autour de la question « Quels sont les états limites de conscience ?» Bienvenue. Bonjour Stephen Lorez.
Bonjour.
Merci d'être venu depuis Liège, donc en Belgique, pour être en direct avec nous. Vous êtes neurologue, professeur de clinique et directeur de recherche au Fonds de recherche scientifique belge au sein du Coma Science Group, le laboratoire de recherche que vous avez créé à l'Université de Liège. Vous êtes également lauréat de nombreux prix scientifiques pour vos travaux et vos découvertes sur les états altérés de conscience. Vous venez de publier aux éditions Odile Jacob un si brillant cerveau, c'est sous-titré « Les états limites de conscience ». Pour vous, Stephen Lorez, c'est une nécessité finalement au quotidien de pouvoir détecter le niveau de conscience du cerveau de vos patients?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est, d'un point de vue scientifique, difficile même de définir ce que c'est la conscience, alors que comme médecin, on est quand même censé savoir ce que on veut dire quand on dit le patient est inconscient, dans le coma. Et donc, je pense que ces patients qui ont un traumatisme crânien ou un arrêt cardiaque et avec qui on peut plus communiquer, posent vraiment un problème, parfois au niveau même de leur diagnostic, de leur pronostic et aussi des options thérapeutiques.
Et c'est possible aujourd'hui, enfin il va y venir à vos découvertes, mais grâce aux techniques d'imagerie notamment qui permettent quoi de voir un peu mieux, un peu plus si le cerveau est conscient, même si le patient ne peut plus communiquer.
Oui, je pense que la question sur la conscience humaine qui a très longtemps été purement philosophique, maintenant avec ces machines, hein, ces scanners, l'IRM, le PET scan, on peut mesurer ce qui se passe dans le cerveau et donc c'est vraiment devenu une science et comme je le dis dans le livre, qui est une série d'histoires que j'ai vécues ces 15 dernières années, c'est très pertinent évidemment de se poser la question, est-ce que ce patient est encore conscient et si oui, de quoi?
Autour de la question, quels sont les états limites de conscience et comment stimuler peut-être parfois une conscience altérée, on commence par quelques pistes de réflexion sonore avec le mix cérébral et conscient de Charles Pélabon.
Le cerveau, il est le centre de notre conscience. Il est aussi le responsable de nos différents états de conscience.
C'est le quartier général du système nerveux. C'est là, en fait, où sont générées les pensées grâce à des cellules qu'on appelle les neurones.
Ah merde, il a fait une syncope.
Autrefois, tout était simple. Un malade dans le coma était considéré comme totalement inconscient, coupé du monde. Aujourd'hui, l'observation du cerveau a tout changé.
T'as pas vu de truc Non, tu sais, maintenant, on voit toujours ce qu'on est.
On a trouvé des marqueurs qui distinguent assez clairement maintenant une personne qui est dans le coma ou dans un état végétatif et qui n'est pas consciente d'une personne qui a encore, malgré des lésions cérébrales qui peuvent être profondes, toute sa conscience.
Vous voyez ça?
Une activité cérébrale minimale ne signifie pas qu'il est vivant. Il est en état.
Si je suis vivant, je suis là.
Je connais aussi l'existence du locked-in syndrome. Clignez des yeux si vous m'entendez.
Le coma artificiel, dès quant à lui un coma provoqué...
De laisser les patients trop longtemps dans une zone où ils n'ont plus aucune conscience de ce qui se passe, c'est finalement pas forcément leur rendre service pour le futur.
Le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme se renvoient la balle sur finalement l'avenir de Vincent Lambert en état végétatif depuis 6 ans.
Comme ça, j'aurais pu continuer à vivre avec une bonne petite conscience tranquille.
L'expérience de mort imminente, en général, c'est un arrêt cardiaque. C'est une expérience de courte durée.
Ces expérienceurs décrivent des phénomènes très caractéristiques.
J'ai rêvé d'une grande lumière blanche au bout d'un tunnel. C'était trop bien.
Hypnose, anesthésie, coma, les états de conscience modifiés, qu'ils soient subis ou choisis, restent pour la médecine un passage obligé dans de nombreux cas.
Stéphane Lorenz, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, hein, ça fait partie de tous les fils qu'on va essayer de tirer au cours de cette émission.
Et je pense que ça illustre bien qu'il y a énormément de facettes. Il y a la problématique d'un point de vue médical, ces patients qui sont aux soins intensifs, quelque part des artefacts de la médecine moderne, avec ces états altérés de conscience, et puis la problématique scientifique, jusqu'à les conséquences éthiques, philosophiques, socio-économiques. Je pense que oui, c'est un sujet qui me passionne.
Et je pense que vous abordez justement toutes ces facettes dans votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, Un si brillant cerveau, c'est sous-titré Les états limites de conscience. Alors, je rappelle que vous dirigez donc le Coma Science Group au CHU de Liège. Vous êtes parvenu, Stephen Lorenz, notamment grâce aux techniques d'imagerie, à détecter des formes de conscience minimales, je crois que c'est comme ça qu'on dit, chez des patients dans le coma, qu'on pensait dans un état végétatif.
Oui, je pense que quand on parle du coma, il faut vraiment préciser de quoi il s'agit. Le coma va durer quelques jours, quelques semaines, ou bien ça va très vite, très mal. C'est ce qu'on appelle la mort cérébrale. Là, c'est la mort. Il n'y a plus de cerveau. On peut mourir qu'une fois. Il n'y a personne avec les critères de mort cérébrale qui a récupéré conscience. Ça, c'est très important.
C'est important de le dire. Donc, il y a une définition de la mort cérébrale
qui est claire,
qui ne peut pas être remise en question.
Qu'on connaît bien depuis les années 50. Il y a aucun patient qui est revenu. Puis il y a ces patients qui survivent, qui peuvent ouvrir les yeux, se réveiller, comme on a défini depuis les années 70, en état végétatif. Je n'aime pas ce terme. On va parler plutôt d'un éveil non répondant. C'est des patients...
Éveil non répondant.
Voilà, ils sont là comme vous, les yeux grands ouverts, mais tous leurs mouvements sont des réflexes. On parle d'un éveil non répondant parce qu'ils ne répondent pas à la question. Et ça, c'est notre test de la conscience. Et ça, ça peut durer malheureusement des années, des décennies. Certains de ces patients peuvent à un moment montrer des mouvements non réflexes, comme suivre des yeux ou orienter à la douleur, ce qu'on appelle état de conscience minimal. Certains vont répondre à la commande, mais jamais pouvoir communiquer leurs pensées, leurs perceptions. Et donc c'est très frustrant pour nous de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, ce patient en état de conscience minimal. Là, à nouveau, ça peut durer des années, des décennies. Puis finalement, il y a le pseudo-coma, le patient qui survit à son coma, complètement conscient, mais paralysé, avec parfois uniquement quelques muscles au niveau de l'œil qui permettent de communiquer. C'est le locked-in syndrome. Donc ça, je pense, c'est très important. On a tendance à parler du coma. En réalité, il s'agit de différents entités cliniques, et c'est pas toujours noir-blanc, c'est vraiment une progression, c'est plutôt en nuances de gris qu'il faut penser.
En nuances de gris qui évoluent en plus, c'est ça qu'on découvre à travers vos cas cliniques, c'est que c'est pas figé non plus, c'est coma, et qu'on peut quoi passer d'un état à l'autre. Et comment est-ce que vous faites, vous, médecin, pour le voir?
Voilà, mais donc c'est ça que j'essaye de décrire dans le livre. Qu'est-ce qui se passe après un trauma, un arrêt cardiaque? Ça peut arriver à chacun de nous. Ces patients posent parfois problème, et maintenant nous avons ces machines qui permettent de voir ce qui se passe dans le cerveau. Et parfois, alors, on a des surprises, et je pense que c'est important, parce que dès que vous montrez qu'il y a une perception, par exemple de la douleur, votre prise en charge va changer. Donc on est en train de réécrire les livres de médecine.
On est en train de réécrire un livre de médecine parce qu'on arrive à interroger des patients qui ne peuvent plus répondre, et on se rend compte qu'en fait, souvent ils pourraient peut-être répondre.
Oui, je pense que historiquement nous avons sous-estimé les niveaux de conscience, que ça soit chez des patients après un coma, comme on le voit à l'hôpital, mais aussi chez les nouveau-nés, les prématurés, où on a considéré ils sentent rien, ou de l'autre extrême, les patients très âgés, déments, avec qui on peut plus communiquer, maladie d'Alzheimer, on dit parfois c'est des légumes. Eh bien non, je pense que comme les animaux avec qui on peut pas communiquer, c'est pour moi une des grandes révolutions en bioéthique, c'est de dire non, ils ont cognition, des capacités et une forme de conscience, et ça, je pense, c'est très important à souligner.
Et en plus, que vous arrivez à démontrer, vous citez notamment dans votre livre le cas de Patrick, je crois, vous avez découvert aussi que la conscience, ça n'implique pas tout le cerveau, qu'il y a des parties du cerveau qui peuvent être lésées, et pourtant, il y a une vraie conscience.
Voilà, donc dans le livre, qui est une série d'histoires vécues, Patrick nous a appris beaucoup. C'était un patient qui a survécu à son coma, cette phase de soins intensifs. On l'a mis dans ses machines, on a vu ce qui se passait dans son cerveau. À l'époque, il allait très mal, il était dans ce fameux état végétatif, il nous répondait, puis il récupère. Et des cas comme Patrick nous ont vraiment ouvert les yeux, et on a pu identifier un réseau de la conscience. À l'époque, les années 90, on ne savait pas, est-ce que la conscience émergent de l'activité globale du cerveau ou est-ce qu'il y a des régions qui sont plus critiques que d'autres? Et donc, grâce à lui, on a pu identifier un réseau important pour la conscience de l'environnement, qu'on s'entend, qu'on voit, et des connexions, parce que ce qui est important, c'est il y a des milliards de neurones, mais un neurone ne peut pas être conscient. C'est vraiment cette communication entre ces neurones, c'est ce qu'on appelle la matière blanche, les axones, les autoroutes un peu dans le cerveau qui sont vraiment importantes.
Et ça permet pour d'autres patients ensuite de détecter s'il est possible qu'eux aussi ils soient conscients même si on ne le voit pas.
Tout à fait, donc mieux comprendre, c'est évidemment pour certains patients mieux traiter, et donc on a pu développer même des thérapies, on peut mettre des électrodes profondément dans le cerveau et essayer de stimuler ce réseau de la conscience de manière invasive, et maintenant on vient de le démontrer aussi avec des électrodes qu'on va mettre sur le cuir chevelu, et donc ça je pense que c'est fascinant, et bon on essaye avec un langage très, très abordable, très grand public, d'expliquer les recherches de ces dernières années.
Autour de la question, quels sont les états limites de conscience et comment les expérimenter, les détecter? On écoute François and the Atlas Mountain sur RFI, Réveil Inconnu. C'est pour vous, Stephen Norris.
Sois perdu sous le jour cruel d'années trop lues, si de désillusionnerait même l'avenue promise à la mer qu'on a vu se perdre en ruelle de quartier résidu. Que connaîtrons-nous de tous ceux dont nous rêvions? De mer du sud, d'atoll de brume, d'avion, de mur du son, gravir au son. La vue pleine du ciel. Que connaîtrons-nous de tous ceux dont nous rêvions? Que connaîtrons-nous de tous ceux dont nous rêvions?
Réveil inconnu, François M. The Atlas Mountain sur RFI. Stephen Lorrain, je vous ai vu écouter, vous avez le casque en main encore, cette chanson avec beaucoup d'attention. On a l'impression de drift de conscience, un peu comme quand on se réveille ou quand la conscience émerge d'un rêve, par exemple.
Oui, j'aime bien, très poétique, ça fait du bien à ce chercheur clinicien un peu réductionniste que je suis, donc bien aimé.
Et c'est aussi quand on se réveille, c'est pas seulement après dans des cas dramatiques, mais vous commencez votre livre, Un si brillant cerveau, par un léger malaise que vous avez eu et cette sensation quand on se réveille, quoi, de la conscience qui émerge comme ça.
Oui, je raconte ma propre histoire quand j'étais jeune étudiant en médecine et que j'ai fait une syncope, je me suis tombé dans les pommes, perdu connaissance pour illustrer au cœur du sujet, comment on définit, qu'est-ce qu'on a perdu à ce moment-là, chacun de nous, toutes les nuits, on perd conscience de ce qui nous entoure, alors que on a aussi en sommeil mais paradoxal, déjà quelque chose de paradoxal, c'est quand on rêve et toute cette difficulté justement de quantifier l'inquantifiable.
C'est ça, l'inquantifiable, la conscience. Hein. Et notre subjectivité et comment la conscience émerge. Alors parfois, elle émerge, on l'a dit déjà, et les patients n'ont pas les moyens de le dire et les soignants ne peuvent pas le voir. Hein. C'est tout l'objet de vos recherches et de vos découvertes fondamentales, Stephen Norris, autour de la question quels sont les états limites de conscience. Tout de suite, une nouvelle question pour vous et celle d'un autre chercheur qui lui explore la mémoire. C'est le neuropsychologue Francis Eustache qui s'intéresse évidemment à vos travaux.
Bonjour Stephen. La question que je voudrais te poser, c'est l'intérêt majeur pour la prise en charge de ces patients, tous ces travaux qui ont été faits sur ces états de conscience modifiés. Comment c'est un changement majeur pour, le dialogue avec ces patients et le respect de ces patients?
Pourquoi ça change tout pour vos patients, Stephen Lorenz?
Je pense qu'on ne peut pas construire sur du sable. Hein. On ne peut pas prendre une décision qui est éthiquement juste si déjà on n'est pas devant un diagnostic bien documenté, le pronostic, les possibilités thérapeutiques. Et donc oui, je pense que c'est très important d'utiliser ces outils, ce IRM fonctionnel, PET scan, pour vraiment réduire l'incertitude. Hein. Pour certains patients, c'est clair. Pour d'autres, il faut accepter que on reste avec cette incertitude, cette probabilité.
C'est-à-dire la famille et les patients. Vous vous dédiez d'ailleurs à votre livre à tous les patients atteints d'une altération grave de la conscience, mais aussi à leur famille, au personnel médical.
Oui, je pense tous les personnes qui sont confrontées à ces patients-là, que ça soit évidemment la famille et les cliniciens, savent très bien comment c'est parfois difficile. Hein. C'est d'ailleurs aussi par frustration que j'ai commencé ces recherches, parce que on est là au bord du lit. Tout notre test de la conscience clinique dépend d'une réponse motrice et ça marche très bien la plupart du temps, mais parfois il y a plus qui se passe dans le cerveau et donc c'est important de ne pas se tromper. Et donc
ce sont des questions en plus éthiques considérables, parce que se pose la question de savoir s'il faut continuer, on va dire très vulgairement, débrancher ou pas, et donc savoir si la personne est consciente ou pas et qu'est-ce qu'elle veut elle-même.
Voilà, donc je pense que c'est vraiment le patient qui doit rester au centre de nos préoccupations. C'est aussi un appel, chacun de nous, ça peut nous arriver, on va tous mourir, qu'est-ce qu'on veut, hein. Je pense que c'est très important et c'est encore beaucoup trop peu fréquent que je le vois quand je suis aux soins intensifs que quelqu'un a identifié une personne de confiance qui a expliqué si ça m'arrive et je ne peux plus communiquer ma volonté, voilà mes valeurs, ou de faire un testament de vie, une déclaration anticipée. Ça, je pense, c'est très très important, le mot anticipé, et ça peut nous aider dans ces moments difficiles de prendre la décision qui est juste, et c'est différent pour chacun de nous. Hein. Pour moi, la grande question, c'est est-ce que quand on a ces patients dans un état de conscience minimal, leur vie n'est que souffrance et continuer n'a pas de sens, ou est-ce qu'il y a encore des moments de bonheur quand ils entendent une musique, un peu de chocolat sur les lèvres? Ça, je pense, c'est très difficile de répondre à cela. Et donc, je pense que c'est important qu'on réfléchisse. Si ça m'arrive, qu'est-ce que je veux
Est-ce qu'on réfléchit plus en Belgique que vous travaillez? Est-ce qu'on laisse plus une déclaration d'intention, ou est-ce qu'on prévient un proche, qu'on le fait plus qu'en France, par exemple?
Je pense que la France a besoin quand même d'un débat serein, où il faut éviter de présenter les choses de manière très noir-blanc, polarisée, on est pour, on est contre, non. Je pense que la réalité du terrain montre que c'est beaucoup plus nuancé que cela, et que c'est important d'avoir en toute transparence, en dialogue, dans une société où il faut respecter que chacun a sa conviction, hein, de décrire voilà la réalité médicale et se poser la question, qu'est-ce qui est le mieux de faire dans ce cas précis, qu'est-ce que le patient aurait souhaité.
Il y a le cas Vincent Humbert, hein, dont on parle beaucoup, toujours en France. C'est toujours polémique, en fait, ces questions-là. Alors, vous vous dites, il faut déjà comprendre si le patient est conscient. Et ensuite, il faut effectivement, peut-être qu'il ait fait des vœux, et ensuite, ça peut évoluer, ça aussi.
Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est fascinant de voir que ces nouveaux tests, hein, nous permettent de réduire cette incertitude. Et donc, à nous de prendre la bonne décision. Comme vous dites, c'est parfois une décision de vie et de mort. C'est très important. Et c'est, pour moi, un débat qu'il faut avoir. Il faut préparer le futur en amenant des outils, ce qu'on appelle des interfaces cerveau-ordinateur, qui vont donner à une partie, une minorité de ces patients, une voix. Hein, donc,
on va y revenir. C'est notamment pour les locked-in syndrome, notamment.
Oui, donc on peut utiliser ces technologies pour accéder, communiquer avec certains de ces patients. Et ça, je pense, c'est très important. C'est pas uniquement le médecin qui doit s'aider, c'est vraiment un dialogue avec des éthiciens, des juristes, aussi les ingénieurs qui nous offrent ces nouvelles technologies. Parce que c'est difficile, on n'a pas de gold standard. Hein. On pense voir la conscience, mais elle nous échappe. On peut pas la regarder sous microscope, même après le décès, comme pour des cellules cancéreuses, par exemple. Donc c'est un domaine difficile, mais je pense qu'on y arrive. Et les dernières années ont bien montré qu'on peut faire des mesures et vraiment avancer dans ce domaine.
Dans ce domaine, d'où l'intérêt de se poser toutes ces questions, hein, autour de la question quels sont les états limites de conscience. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash d'info, avec vous Steven Lorez. À tout de suite. La coupe. Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Quels sont les états limites de conscience ?» Nous sommes en compagnie du neurologue Steven Lorez, professeur de clinique et directeur de recherche FNRS du Coma Science Group du CHU de Liège Université, qui vient de publier aux éditions Odile Jacob un si brillant cerveau, même quand celui-ci est prisonnier, enfermé dans son propre corps, sans aucun moyen de communiquer avec les autres. Extrait de la bande originale du film « Le scaphandre et le papillon ».
Regarde, il se réveille.
Docteur,
je sais à quel point tout ça est difficile pour vous.
Vous ne m'entendez pas.
Vous souffrez de ce qu'on appelle Locked-in syndrome.
Je sais que vous pouvez cligner des yeux. Alors vous allez cligner une fois pour oui, deux fois pour non.
J'ai eu une attaque, je vais retrouver la parole, je vais retrouver la mémoire. L'imagination et la mémoire sont mes deux seuls moyens de m'évader de mon scaphandre.
Au sujet du livre,
ah oui, il a
conclu un contrat avec nous.
Il voudrait le faire.
Mais il parle, je crois qu'il ne pouvait pas parler.
Il parle et il s'exprime d'une certaine manière.
D'une certaine manière, en effet, Le scaphandre et le papillon, c'est le titre de ce livre terrible, hein, à tous les sens du terme, de Jean-Dominique Bauby, qui a été ensuite porté à l'écran. C'est peut-être le cas le plus connu, hein, de Locked-in syndrome, en tout cas c'est celui qu'il a fait connaître en France, Jean-Dominique Bauby.
Oui, c'est un livre, et le film d'ailleurs, extraordinaire. J'oblige tous mes étudiants à le lire, je pense.
Ouais.
Tout le monde qui peut être en contact avec ce genre de patient, que ce soit aux soins intensifs ou après.
Qu'est-ce que c'est qu'un Locked-in syndrome?
Alors c'est vraiment comme le nom on le dit, hein, c'est quelqu'un qui est avec un cerveau intact, hein, mais déconnecté, enfermé, plus capable de contrôler ses muscles parce qu'il y a une lésion au niveau du tronc cérébral. Donc c'est entre la moelle et le cerveau, classiquement après une thrombose, où on a tous les autoroutes, hein, les fibres moteurs qui sont coupées. Donc c'est un patient qui peut pas bouger les bras, les jambes, pas parler. Et classiquement, c'est uniquement par un petit mouvement des yeux qui peut s'exprimer. Donc Jean-Luc Bobby qui a écrit son livre avec un œil, hein, quelqu'un qui lisait l'alphabet. Heureusement, aujourd'hui, nous avons des technologies comme des caméras infrarouges qui vont détecter les mouvements des yeux et leur permettre de contrôler un clavier, leur chaise roulante, aller sur Internet, évidemment, améliorer leur qualité de vie. Donc, après son décès, donc son livre qui est devenu un best-seller mondial, il a créé cette association ici en France, hein, Alice, qui est extraordinaire. Donc, nous collaborons d'ailleurs pour essayer de aider ses patients, ses familles.
Qui sont quoi, de plus en plus nombreux, où on les détecte aujourd'hui, où on arrive à les faire vivre, enfin à ce qu'ils vivent et ensuite vivent bien, on va même y, enfin bien, dans les meilleures conditions. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Est-ce qu'on les détecte plus?
Alors, à nouveau, quelque part, c'est des artefacts de la médecine moderne. Mmh. Donc, avant, ces patients-là, cette pathologie n'existait pas. C'est depuis qu'on a le respirateur artificiel, qu'on a ce qu'on appelle ces soins intensifs, hein, qui ont, depuis les années 60, 70. Maintenant, Alice, en France, l'association Locked-in syndrome, compte des centaines de patients. Et je pense que c'est très important, évidemment, de poser le diagnostic au plus vite, et on peut encore faire mieux, parce que que c'est difficile. Parfois, il faut même ouvrir, comme je le dis dans le livre, manuellement les yeux pour qu'on se rende compte. Ah, quand je lui demande « regardez vers le bas », il le fait. Je peux établir une communication. Et bon,
parce que sinon, on peut passer à côté. Quelqu'un peut être absolument conscient.
C'est difficile de s'imaginer ce que
ça
c'est.
Ça existe,
hein,
il y en a.
Oui, encore trop souvent, on a des patients et on considère que parce qu'ils bougent pas, ils n'est conscient de rien. Ben non. Je pense que le Locked-in syndrome illustre très bien que handicap moteur, et on peut pas être plus handicapé moteur que ça, hein, ils bougent pas, et quand même, ils ont une capacité intellectuelle, une conscience qui est complètement intacte.
Il n'y a pas que Jean-Dominique Bobby, vous parlez de l'association Alice, il y a Stéphane Vigan, hein, qui lui aussi a écrit un livre au titre extraordinaire, Légumes verts, pour raconter qu'il y a lui-même Locked-in syndrome, qui a une femme, des enfants, et qui a même eu un enfant en étant Locked-in syndrome. Donc, il y a des hommes sur Terre et des femmes qui peuvent vivre comme cela.
Tout à fait, et c'est une question difficile. Donc, on a déjà parlé de l'état de conscience minimal. Qu'est-ce qu'ils perçoivent? Ben, c'est difficile parce qu'on, par définition, on peut pas leur poser la question. Ben, ici, on peut. Donc, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec l'association française. Est-ce que on peut vivre en Locked-in syndrome et être heureux, hein? Donc, mais on peut le faire ensemble. Donc, je vais vous demander de vous imaginer le meilleur moment de votre vie. C'est plus 5. Et le pire moment de votre vie, c'est moins 5. Et maintenant, je peux vous poser la question, que vous avez calibré votre échelle qualité de vie. Ces deux dernières semaines, vous étiez à... Alors, c'est difficile. On l'a fait chez ces patients-là. Ils ont cligné de l'œil. Et les réponses les plus fréquemment obtenues, hein, de moins 5, plus 5, c'est plus 3, plus 4. Donc oui, il faut pas juger un livre sur sa couverture. Il y a une vie, hein, qui vaut la peine d'être vécue, même après un Locked-in syndrome.
Même en étant au fond juste un cerveau, enfin juste une conscience, on peut
voilà,
presque dire comme ça.
On peut pas être plus handicapé moteur que ça. Bon, l'étude qu'on a menée avec Alice a montré aussi que certains de ses patients avaient moins 5, hein, donc étaient très malheureux. On a même posé la question sur l'euthanasie, et j'en parle dans le livre, c'est difficile, mais je pense que c'est important de vraiment garder le patient au centre dans tout ce débat-là.
C'est ça, et c'est au cas par cas, c'est chacun, pour soi-même en fait. Hein.
Voilà, je pense que il faut pas que nous, de l'extérieur, on va juger trop vite.
Et vous citez aussi le cas, alors un peu particulier, de Stephen Hawking, génie, cerveau, lui aussi, alors pas tout à fait emmuré dans son corps, mais enfin quand même avec un corps qui ne répond pas à
oui, tout à fait.
Demande.
Il est aussi en Locked-in syndrome. Bon, je l'ai rencontré il y a quelques mois. Il communique maintenant difficilement avec un petit mouvement, et puis contrôle un ordinateur.
Tout un tas de machines et d'assistants.
Voilà, il respire par une aide, il y a un respirateur artificiel, et donc bon, voilà, un brillant cerveau, hein, coupé de tout contrôle musculaire, donc ça illustre bien comment il ne faut pas nous juger uniquement sur nos mouvements. Lui, c'est après une maladie progressive, mais pour nos patients qui ont eu une thrombose ou un traumatisme, très souvent c'est un mélange. Il y a une atteinte au niveau moteur, ils sont paralysés, et aussi au niveau intellectuel, et donc là, c'est évidemment encore plus difficile qu'en cas de Locked-in syndrome.
Autour de la question « Quels sont les états limites de conscience ?», une nouvelle question tout de suite pour vous, Stephen Laurie, c'est celle de Luc Allemand, rédacteur en chef du mensuel La Recherche.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu frustré que tous les tests de conscience que vous mettez au point chez des patients en état de conscience minimale ou en état de coma dépassé ne puissent pas être utilisés plus systématiquement ?
Ça ne va pas assez vite, c'est pas assez utilisé, Stephen Laurie, vos tests.
Alors frustré, oui. Hein. Déjà, quand on est confronté à ces patients et qu'on a ces difficultés à quantifier leur conscience, et frustré après quand on a développé des tests qui sont pas utilisés partout. Mais là, je pense que c'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle. C'est le défi de vraiment traduire, hein, ces recherches. Il faut pas que tous ces patients viennent à Liège ou dans des centres d'excellence. Il faut que nous, on va vers les patients, vers les hôpitaux, les maisons de repos et de soins, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc il y a des réseaux européens, et donc c'est à nous maintenant de définir quel test il faut faire en fonction de l'étiologie. C'est différent pour un traumatisme, pour un arrêt cardiaque, à quel moment. Et donc ça, c'est fascinant de voir maintenant que justement on réduit cette incertitude et on permet...
On réduit cette incertitude, c'est ça qu'on peut faire. Vous dites, vous citez un chiffre dans votre livre, 41% des diagnostics, hein, sur l'état de conscience sont erronés.
Oui, c'est tout à fait. Énorme. Je pense qu'il faut pas trop d'arrogance. Mmh. C'est pour certaines situations, c'est clair. La mort cérébrale, on l'a dit. Le coma irréversible, voilà. Il faut savoir que la majorité des décès aux soins intensifs, c'est la décision difficile de l'équipe médicale d'arrêter le traitement. Hein. Parfois, c'est très clair et on le fait parce qu'on sait très bien qu'il y a plus de chance.
Il y a mort cérébrale, donc c'est terminé.
Là, évidemment, il y a pas de question. Et pour beaucoup de cas de coma, on sait qu'il y a pas de chance de récupération. Pour d'autres, on ne sait pas. On continue et on va créer ces états altérés de conscience chroniques. Et là, parfois, c'est plus difficile. Et je pense important d'utiliser ces nouveaux tests et de réduire, comme vous dites, l'incertitude, parce qu'on peut pas construire sur du sable.
Qu'est-ce que ça dit sur la conscience, sur notre conscience à nous en général? Parce que vous étudiez aussi les états limites de conscience, alors ce qu'on a dans le sommeil, dans le rêve, mais aussi l'hypnose. Enfin, vous étudiez tous ces sables mouvements de la conscience, on peut le dire comme
oui,
ça.
Oui, je pense d'un point de vue scientifique, c'est quand même la question. Comment est-ce que quelque chose de matériel, ces milliards de neurones et surtout ces milliers de milliards de connexions, parce que c'est ça la force du cerveau, c'est comment est-ce qu'ils interagissent, font émerger ce qu'on appelle la conscience. Donc, je pense que c'est un peu comme l'eau devient flocon, l'activité neuronale devient pensée. Et donc, c'est à nous, tout d'abord, d'identifier où ça se passe. Donc, on a un réseau de la conscience du monde extérieur, c'est là devant et derrière ce qu'on appelle le réseau frontopariétal, pour la conscience perceptuelle. Et puis, on pourrait dire la conscience de soi, c'est un autre réseau, ici, plus en profondeur du cerveau. Et donc ça, c'est important. Et on peut aussi, en sommeil, en hypnose, comme vous dites, modifier, par exemple, voir que quand vous êtes plus absorbé dans votre petit monde intérieur, justement, on voit une déconnexion de ce fameux réseau de la conscience du monde extérieur.
C'est-à-dire qu'on le voit à la fois grâce à ces machines, on le voit, mais comme vous dites, c'est quand même après une qualité qui émerge. Enfin, on voit c'est quelque chose qui émerge, c'est ça?
Tout à fait. Je pense que notre cerveau, qui est le résultat de ces millions d'années d'évolution, il va faire une représentation symbolique de notre environnement. Donc on a perceptions sensorielles, ce qu'on voit, ce qu'on entend, mais on n'entend pas avec nos oreilles, on voit pas avec nos yeux, même pas avec le cortex auditif ou visuel. On entend vraiment avec ce réseau de la conscience du monde extérieur.
C'est donc une fabrication, une refabrication à l'intérieur de ce qui se passe ou...
Tout à fait. Donc on a difficile évidemment à l'accepter, à le concevoir. Certains disent même on sera jamais capable de comprendre la conscience avec notre conscience humaine limitée. Mais bon, je pense, pour citer le fameux philosophe James Bond, il faut jamais dire jamais. On a les outils et je pense même si la question est difficile, c'était aussi difficile de comprendre la vie. Et ça n'a pas empêcher Watson et Crick d'identifier le double hélix, l'ADN. À nouveau, on peut pas réduire la vie à l'ADN, on peut pas réduire la conscience à quelques neurones, mais je pense que c'est important dans ce domaine de ne pas dire c'est un tabou, on peut pas l'étudier, comme malheureusement historiquement on l'a fait. Quand j'ai commencé dans les années 90, il y avait très peu de chercheurs qui s'intéressaient à la question. Maintenant, on voit que c'est possible, c'est des réseaux qu'on voit avec ces différentes machines, et aussi il y a des applications cliniques évidemment, comme on le relate dans le livre.
Immédiate. Allez, on écoute Dire Straits. C'est vous qui avez choisi ce morceau, Steven Lurie. On se demande pas pourquoi ça s'appelle Why Worry.
Merci. Thank you.
Worry sur RFI, Dire Straits, autour de la question quels sont les états limites de conscience. Stephen Lawrence, dans votre ouvrage Un si brillant cerveau parmi tous les états de conscience limites, vous évoquez aussi les expériences de mort imminente qui s'éclairent aujourd'hui par ce que l'on comprend, ce qu'on essaye de comprendre du fonctionnement même du cerveau.
Ce qu'on essaye de comprendre, tout à fait, on s'intéresse à, pour moi, cette réalité physiologique qui est l'expérience de mort imminente. C'est difficile pour moi parce que j'en ai jamais eu. Donc, je pense tout d'abord, il faut essayer de bien écouter ces patients qui
disent
ont vécu
tous
cela.
Un peu, enfin, le même genre de choses, qui décrivent le même genre de tunnel
tout à
de
fait.
Lumière.
Nous avons maintenant plus de 300 de ces récits. D'ailleurs, si je peux, c'est un appel à témoins.
Mais allez-y sur RFI, appel à témoins pour recueillir des récits de.
Tout à
de...
fait. Je pense que c'est important d'avoir beaucoup de ces témoignages parce que quand ça se passe, moi, je ne suis pas là. C'est difficile. C'est pas comme le sommeil et l'étude du rêve où on peut, dans un laboratoire, planifier les choses. Ici, bon, ces patients qui font un arrêt cardiaque, on a d'autres soucis que de mesurer ce qui se passe dans leur cerveau, de comprendre ce qu'ils vivent. Et donc, on essaye de mieux caractériser ces expériences. Et donc, on a observé que la très grande majorité, plus de 95%, comme je dis dans le livre, c'est des récits très positifs. Hein. Pour eux, même difficile à raconter avec des mots. Ils se sont sentis très très bien et pour certains, plus de 80%, ils ont cette sensation de décorporation. C'est extraordinaire.
De sortir de leur corps,
voilà,
de se voir.
Et ensuite, cette fameuse lumière qui semble aussi être... parce que j'étais l'année passée en Inde, où on a moins cette notion de tunnel. C'est plutôt une rivière, alors que dans le monde musulman, c'est plutôt la notion de porte. Donc oui, c'est comparable, un peu comme le rêve. Bah, il y a cette un peu surréaliste pour chaque rêve, et quand même, chaque rêve est différent, chaque expérience de mort imminente est aussi différente et personnelle.
Et qu'est-ce que vous, alors, en tant que neurologue qui étudiez donc ces états de conscience limites, qu'est-ce que vous dites par rapport à ces expériences donc de mort imminente, mais ces gens sont revenus, hein, personne n'est mort qui a vécu cette... on revient pas de la mort.
Ben non, je pense que parfois certains auteurs vont prendre les expériences de mort imminente comme preuve scientifique qu'il y a une vie après la mort. Là, je dis non. S'il y a une preuve scientifique de vie après la mort, c'est le don d'organes. Donc on peut mourir
c'est
qu'une fois.
C'est le don d'organes, oui. D'accord.
Là, je pense que c'est aussi important que chacun
que ce message passe aussi. Hein.
On réfléchit. Là, on est mort. Les patients avec des expériences de mort imminente n'étaient pas morts. Donc c'est par ça. Je n'aime pas cette notion de mort clinique. C'est juste un arrêt cardiaque ou certains de ces patients, on peut les réanimer. Donc, ils n'étaient pas morts, même si pour moi, c'est fascinant et ça illustre à nouveau qu'on a besoin pas de tout le cerveau pour être conscient. Hein. Ces patients, on a étudié leur activité cérébrale, un arrêt cardiaque, il n'est pas absent, c'est pas la boîte vide comme on le voit en cas de mort cérébrale. Il y a encore une certaine activité. Et donc maintenant, à nous de comprendre ce phénomène. Là, je pense qu'il faut pas trop d'arrogance académique. On est loin d'avoir compris comment expliquer la conscience humaine. Mais évidemment, comme chercheur, je veux aller plus loin. Je peux pas juste dire c'est magique. Non, je veux essayer de comprendre. C'est pour ça aussi cet appel à témoins. On a besoin de beaucoup de ces témoignages et on veut expliquer. Hein, c'est différent. Différentes dimensions, hein, cette sensation de bien-être, cette décorporation, cette lumière, et donc ça, c'est différents projets.
Qu'est-ce qui se passe ? Quelle forme de conscience à ce moment-là ? Dans le cerveau, c'est au fond ça que vous cherchez.
Tout à fait. Hein. Pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est vécu et on l'a étudié. C'est avec énormément de détails qui vont raconter ça. C'est plus vrai que vrai quand on utilise les différentes échelles utilisées en psychologie pour caractériser des mémoires. Et ça change une vie aussi, hein. Donc je pense que c'est important et la médecine, la science n'a pas pris ces patients-là au sérieux pendant trop longtemps. Il y a énormément de livres, de documentaires, mais en ce qui concerne les études scientifiques, malheureusement, pour moi, il y en a beaucoup trop peu.
Voilà, pour vous faites donc votre appel à témoins sur RFI, Stephen Lawrence, et donc nos auditeurs internautes pourront sur notre site, il y aura tout le lien sur notre page également, sur la page Facebook, on va les mettre pour pouvoir vous contacter et raconter s'ils ont eu eux-mêmes une expérience de mort imminente autour de la question, quels sont les états limites de conscience. Vos travaux, donc surtout ces états limites, rejoignent ceux de tous ceux que vous appelez, Stephen Lawrence, les nouveaux explorateurs, ces chercheurs qui explorent la conscience, comme le professeur Stanislas Dehaene du Collège de France, éminent neuroscientifique spécialiste du cerveau, qui vient de publier également aux éditions André Jacob, Le Code de la Conscience. On l'écoute.
Alors, moi, je pense que l'histoire naturelle de la conscience, on commence à pouvoir la faire. C'est-à-dire, on a trouvé dans le cerveau de l'homme des marqueurs du fait qu'une personne ait ou n'ait pas pris conscience d'une information. On a aussi trouvé des marqueurs qui distinguent assez clairement maintenant une personne qui est dans le coma ou dans un état végétatif et qui n'est pas consciente d'une personne, même minimalement consciente, mais qui a encore, malgré des lésions cérébrales qui peuvent être profondes, toute sa conscience. Donc, nous avons des marqueurs, et une fois qu'on a des marqueurs physiologiques de l'état de conscience, on peut aller chercher chez d'autres espèces, chez le singe, chez le chien, chez le poisson, pourquoi pas, chez les oiseaux, est-ce qu'il existe des marqueurs similaires ? Alors évidemment, ça va porter sur des analogies, on espère des vraies homologies au sens évolutif du terme, mais en premier abord, avant tout des analogies entre le cerveau de l'homme et celui d'autres espèces. Ce travail est en cours. Il suggère très clairement, par exemple, que les autres primates, et peut-être même la souris, disposent d'architecture dans le cortex préfrontal qui, dans une certaine mesure, permettent de garder des informations en mémoire, de les garder en tête, si on peut dire, d'une manière qui semble homologue de ce qui existe chez l'homme. Donc une sorte de précurseur des architectures de la conscience. Dans ce sens-là, je pense qu'on peut parler d'un début d'histoire de la conscience.
C'est la dernière frontière, la conscience, pour les chercheurs. Enfin, on a l'impression aujourd'hui, c'est la frontière que vous essayez d'explorer, justement.
Oui, je pense que c'est quand même une, c'est pas la question en science, hein, comment essayer de comprendre le code neuronal de la conscience. Je serais peut-être moins... je pense qu'on a des marqueurs, oui, mais que ça reste quand même encore à l'heure actuelle impossible, hein, de vraiment expliquer comment cette activité neuronale explique, hein, la subjectivité.
Vous la voyez, en fait, vous l'observez. Aujourd'hui, on peut l'observer en émerger.
Oui, tout à fait. Mais
émerger,
non, il n'y a pas une région de la conscience. Hein, je pense que ça, ce serait une faute comme en phrénologie. On ne peut pas réduire ses capacités.
Il n'y a pas la bosse de la conscience comme il y aurait eu la bosse des maths.
Donc,
ou je ne sais pas.
C'est vraiment en termes de réseaux, des réseaux qui sont en permanence interaction, où il y a encore vraiment le code, comment ils communiquent, ils se parlent, ces neurones, ça nous échappe. Nous avons des machines qui permettent de voir avec de plus en plus de précision dans le cerveau. Mais vraiment, ce que moi je veux, c'est à la milliseconde près savoir ce qui se passe dans ces milliers de milliards de connexions dans le cerveau, dans cette soupe de neurotransmetteurs. Et là, on n'a pas encore les technologies. Donc, on reste quand même avec des tests, des mesures qui sont indirectes. Et donc, voilà, on a déjà fait pas mal de chemin. Je pense que c'est important de confronter nos hypothèses, nos théories à nos observations. Mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé l'explication ou une théorie de la conscience.
C'est une question de vous dites, on n'a pas encore les outils technologiques. C'est pas qu'une question d'outils technologiques, mais c'est quand même aussi une question d'outils technologiques pour pouvoir voir encore mieux, observer encore mieux à la milliseconde près, comme vous dites.
Oui, tout à fait. Je pense que nous sommes des enfants de notre temps. Ce qui faisait que Galiléo était un bon astronome, c'est qu'ils avaient des bons télescopes. Maintenant, on a des outils, c'est plus uniquement le domaine de la philosophie, mais on n'y est pas encore. On a identifié un réseau, on sait quelles sont les connexions critiques, ça nous sert en clinique, mais on peut pas dire, voilà, on a tout expliqué, loin de là.
Entre espoir et acharnement thérapeutique, c'est dans votre dernier chapitre que nous réserve l'avenir, Stephen Loris. On en est là, entre espoir pour la recherche et acharnement thérapeutique contre lequel vous luttez aussi, enfin vous rappelez à quel point chaque patient doit être au cœur de chaque traitement.
Oui, je pense que c'est important d'utiliser ces nouveaux tests, de rationaliser et d'optimiser le trajet de soins. Hein, parce que je pense, ici en France aussi, il y a encore trop de familles, de patients qui ne trouvent pas le chemin vers le centre de rééducation après un coma. Donc il y a énormément de temps et d'énergie qui va vers cette phase aiguë, qui est les soins intensifs. Et pour les patients qui prennent plus de temps, parfois, c'est le croix de la bannière pour trouver un centre qui est prêt à les accueillir.
Et c'est encore pire au sud où sont beaucoup de nos auditeurs.
Voilà, donc je pense qu'il y a encore du travail à faire et que c'est à nous de dire, voilà, dans quel scénario, dans quelle situation clinique il faut utiliser tel ou tel test pour prendre la bonne décision. Et donc ça, c'est dans différentes collaborations multicentriques, un travail qui est en cours.
Quels sont vos vœux? On est en début d'année 2015, Stephen Loris. Vous rêveriez de quoi en ces temps parfois un peu sombres?
Ben, non, mais je suis optimiste. Je pense que l'optimisme est une obligation morale. C'est clair qu'on parle là de situations parfois très très graves.
Des familles vous êtes confrontés tous les jours à des
situations
dramatiques.
Mais on peut faire beaucoup pour ces familles. Donc, non, je suis convaincu que il y a pour moi beaucoup d'espoir. J'espère évidemment que les ingénieurs vont nous donner encore des meilleurs outils pour progresser dans ce domaine-là. Et là, je ne connais pas le futur. Personne n'avait prédit qu'avec un aimant, hein, cet IRM fonctionnait, on allait pouvoir faire des photos du cerveau en action. Donc, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais je suis quand même convaincu que, comme toujours en science, on se pose une question, puis on fait des observations et on avance, même si chaque fois, on se pose encore plus de questions après telle ou telle soi-disant découverte.
Et vous vous posez, j'imagine, beaucoup de questions tous les jours au quotidien avec votre équipe clinique dans ces centres, dans ce coma.
Oui,
tout à fait. De recherche sur le coma.
Je pense qu'avec toute l'équipe, hein, parce qu'ici dans le livre, je raconte ces différentes découvertes et c'est vraiment un travail d'équipe. Où d'un côté j'ai la casquette du clinicien et là on peut pas rester philosophe, il peut prendre des décisions, et puis le chercheur qui évidemment lui il y a pas de vérité absolue, en permanence il va mettre en question ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas nécessairement demain.
Merci infiniment d'être venu en direct, Stephen Loris.
Merci
à
vous.
Nous faire partager vos recherches, vos découvertes et vos interrogations, et nous rappeler aussi aux fondamentaux dons d'organes que vous avez cités. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, Un si brillant cerveau, les états limites de conscience. Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, toujours grâce à notre brillant cerveau et surtout à celui de notre invité, l'astrophysicienne Françoise Combe, spécialiste de matière noire et de galaxies qui vient d'être nommée professeure au Collège de France, nous remonterons plus loin dans le temps et dans l'espace autour de la question: comment se forment les galaxies? Rendez-vous demain pour le savoir un peu avec Charles Bellabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert, amis auditeurs et internautes. Merci de votre fidélité. Le journal dans une poignée de secondes.
Suivez la Coupe d'Afrique.